Bon, je continue par une nouvelle figure qui comportera un peu de lecture cette fois-ci. Et cette figure, je l'ai appelée couplage. Alors je dis couplage et non pas couple, parce que ce trait du vivre ensemble ne réfère pas au couple conjugal ou au couple pseudo-conjugal, bien que ce soit là un problème très réel de vivre ensemble, et même et surtout peut-être à l'intérieur des communautés, mais seulement au couplage de deux partenaires qui sont liés et comme cimentés l'un à l'autre par une aliénation réciproque, par ce qu'on appelle quelquefois une folie à deux. Comme toujours, j'ouvre simplement le dossier, n'est-ce pas ? Ces figures sont des espèces de cases qui ne sont pas fermées, que vous devez vous-même, en quelque sorte, si ça vous intéresse, compléter par votre culture ou par votre expérience. Alors, j'indiquerai donc simplement pour ouvrir ce dossier une remarque sur, disons, un couplage léger, passager, et ensuite je donnerai deux exemples littéraires, disons, de couplage fort, de couplage structuré. Alors, d'abord la remarque sur le couplage léger. Le principe du couplage a été donné par ce psychanalyste quelque peu marginal dont j'ai déjà parlé, l'anglais Byron, B-I-O-N. J'en ai parlé à propos de la figure que j'ai intitulée la cause. Et vous vous rappelez que il y avait trois hypothèses de base pour qui représentaient les objectifs d'un groupe. Et la seconde hypothèse était précisément l'hypothèse de couplage. Byron écrit, deux membres du groupe, il s'agit, je le répète, de groupes qui sont réunis simplement à l'occasion de séances, n'est-ce pas ? C'est donc un vivre ensemble très passager. Deux membres du groupe se mettent à discuter, parfois leur conversation serait difficile à décrire, mais il est évident qu'ils sont occupés l'un avec l'autre, et c'est bien la vie du groupe. Et le groupe, à ce moment-là, quand il voit ses deux partenaires en train de se lier, en quelque sorte, à l'intérieur même du groupe, le groupe devient silencieux et attentif. Et Byron continue, « Chaque fois que deux personnes établissent ce genre de relation dans un groupe, c'est-à-dire en fait dans une séance, qu'il s'agisse donc d'un couple homme-femme ou deux hommes ou deux femmes, l'hypothèse de base, dit Byron, pour le groupe comme pour le couple lui-même, semble être celle d'une situation sexuelle. C'est comme si le sexe constituait la seule raison possible permettant à deux individus de se rapprocher. » Alors ici, il s'agit évidemment d'une mise en configuration qui est légère, passagère, mais cependant, c'est pour ça que je la cite, générale et fréquente. En effet, je le répète, dans n'importe quelle soirée, dans n'importe quel groupe, vous pouvez constater, d'une façon, je le répète souvent, très mobile, tout d'un coup, l'isolement, l'enfermement léger devant le groupe de deux partenaires qui, tout d'un coup, au vu de tout le monde, peut-être même quelquefois à leur propre insu, semblent liés par une relation chaleureuse ou plus chaleureuse, de demande réciproque, de séduction réciproque. Quel que soit le mobile, le décor et l'alibi de ces réunions, il y a à ce moment-là l'évidence de ce que j'appellerais un certain affolement réciproque, de teinte érotique. Et il est certain que dans ces cas, le groupe se fait spectateur de cet affolement réciproque. Autrement dit, à ce moment-là, le couplage structure passagèrement le groupe. Et c'est souvent un couplage, d'ailleurs, sans lendemain. c'est le passage très ténu, très discret, disons, dans une réunion, de ce qu'on pourrait appeler déjà une folie à deux. Il faut d'ailleurs, je profite de ce terme affolement, pour dire qu'à mon sens, il faut jouer sur l'opposition entre affolement et folie. La notion d'affolement, être affolé par quelqu'un ou par quelque chose, je ne crois pas que ce soit une notion qui soit topique en psychanalyse, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais entendu la psychanalyse s'exprimer sur cette notion d'affolement, d'être affolé par. Et par conséquent, si la psychanalyse n'en a pas parlé, c'est que la notion d'affolement doit faire partie d'une description subtile des états relationnels. Je dirais que cette relation subtile est importante parce que, on pourrait dire que dans une certaine mesure, nous passons notre vie à être affolés par l'un ou par l'autre. Et maintenant que j'ai posé le couplage dans sa ténuité discrète, je vais donner deux exemples de couplage très fort, presque caricatural. Le premier, je l'extrais de cette histoire des moines de l'Égypte à l'époque patristique, qui s'appelle l'histoire losiaque dont j'ai parlé. C'est l'histoire de Loge, E-U-L-O-G-E, et de l'estropié. Je vais vous la lire parce que elle ne manque pas, tout au moins à mon sens, de saveur. Enfin, je vais vous en lire une partie en tout cas. Voilà, alors c'est l'histoire donc d'un converti qui s'appelle Euloge. Cet Euloge était un homme instruit qui avait parfait le cycle des études. Saisi d'amour pour l'immortalité, il avait dit adieu aux agitations du monde et distribué toute sa fortune, se réjouissant, incapable qu'il était de travailler. En butte, tout seul, à l'Acédie, n'est-ce pas, nous connaissons ce mot, en butte, tout seul, à l'Acédie, il ne voulait pas plus s'affilier à un groupe qu'il ne s'arrangeait d'être seul. Or, voilà qu'il trouva, couché sur le marché, un estropié qui n'avait ni main ni pied et dont la langue seule n'était pas usée pour agripper les passants. Euloge s'arrête, le dévisage, prie Dieu et fait avec Dieu cette convention. Seigneur, en ton nom, je prends cet estropié et j'assure son sort jusqu'à sa mort, afin que grâce à lui, je sois sauvé moi aussi. Accorde-moi la patience de le servir. Il s'approche de l'estropié et lui dit, veux-tu, Père, c'est le grec mégas qui rend le copte abba, apa, n'est-ce pas, Père qui est en copte, dont nous avons tiré abbé. Bon. Veux-tu, Père, je te prends chez moi et j'assure ton sort. L'autre lui dit, c'est parfait. J'amène donc un âne, dit-il, et je te prends. Il en fut d'accord, Euloge amena donc un âne, souleva l'infirme et le transporta dans sa cellule à lui. Et il était pour lui plein d'attention. 15 années à la file, Euloge fut l'infirmier de l'estropié. Il le lavait, le servait de ses mains et le nourrissait selon sa maladie. Mais, après ces 15 ans, un démon fondit sur l'estropié. Il se révolte contre Euloge. Et voilà, et voici le genre de mauvais propos et d'injures dont il se mit à laver la tête à notre homme. Salaud, esclave échappé, tu as volé l'argent des autres et tu veux te sauver sous mon couvert. Jette-moi sur le marché, je veux de la viande. Euloge lui apporta de la viande, mais il reprit ses clameurs. Je ne suis pas bien, c'est la foule qu'il me faut. C'est le marché qu'il me faut. Au secours, jette-moi où tu m'as trouvé. Au point que s'il avait eu des mains, il l'aurait sans doute étranglé, tant le démon l'avait rendu farouche. Alors, Euloge s'en va chez les ascètes de son voisinage et il leur dit : Que faire ? Cet estropié m'a réduit au désespoir. le planter là. J'ai fait à Dieu une promesse et j'ai peur. Mais si je ne m'en défais pas, il empoisonne mes jours et mes nuits. Que faire donc avec lui? Je n'en sais rien. Ils lui disent, le grand vit toujours. C'est ainsi qu'ils appelaient Antoine. Va le trouver, mets l'estropié dans une barque et transporte-le à l'ermitage. Attends qu'Antoine revienne du désert et remets-lui la décision. Quoi qu'il vienne à te dire, conforme-toi à son jugement, car c'est Dieu qui te parle par lui. Il les écouta, et mettant l'estropié dans une barquette de pâtre, il sortit la nuit de la ville et le porta à l'ermitage des disciples de saint Antoine. Alors, bon, je passe. Donc, Euloge consulte, fait une consultation, consulte saint Antoine et il lui dit, « J'ai trouvé cet estropié sur le marché et j'ai promis à Dieu de le soigner pour me sauver, grâce à lui, et le sauver grâce à moi. Mais comme après tant d'années, il me tourmente à l'extrême et que j'ai songé à le planter là, je suis venu vers ta sainteté pour que tu me conseilles ce que je dois faire et que tu pries pour moi, car je suis terriblement tourmenté. » Antoine lui dit d'une voix grave et sévère, « Si tu le rejettes, celui qui l'a fait ne le rejette pas. Si tu le rejettes, toi, Dieu en suscite un autre meilleur que toi et qui le recueille. » Euloge donc se tint quoi tout saisi. Après quoi, laissant là Euloge, Antoine se met à fouailler l'estropié en criant, « Manchot, cul de jatte, indigne de la terre et du ciel, vas-tu cesser de te battre avec Dieu? Ne sais-tu pas que c'est le Christ qui se sert? Comment oses-tu, contre le Christ, articuler de telles choses? N'est-ce pas pour le Christ qu'il s'est fait esclave à ton service? » Et il le laissa lui aussi tout quoi. Après s'être entretenu avec tous les autres de leurs affaires, il prend à part Euloge et l'estropié et leur dit, « Retournez tout droit, partez, ne vous séparez pas l'un de l'autre, allez droit à la cellule où vous avez passé tant de temps. C'est que déjà Dieu envoie vous prendre. Cette tentation vous est survenue parce que tous les deux vous êtes à votre fin et allez recevoir vos couronnes. Ne faites donc rien d'autre, sinon l'ange ne vous trouverait pas en place. » Cheminant donc au plus vite, ils arrivèrent à leur cellule. Dans les 40 jours, Euloge meurt et 3 jours après meurt l'estropié. Voilà donc l'histoire de Euloge et de l'estropié, dont je dirai quelques mots ensuite. Mais avant, je veux faire une autre lecture bien différente, qui sera notre second texte, et qui, elle, sans doute, vous est connue. Ce ne sera qu'un rappel, le rappel d'un couplage, d'une aliénation à deux, qui n'est pas sans rappeler le rapport de Euloge et de l'estropié. C'est le rapport dans Proust, du côté de chez Swann, de la tante Léonie et de Françoise. Dans l'édition de la Pléiade, c'est le premier volume autour de la page 118 et reprise page 153. Si vous permettez, je vous le lis aussi. Donc, vous savez que Françoise est au service de la tante Léonie, qui est immobilisée, qui s'immobilise volontairement dans son lit, et que la tante Léonie, qui s'ennuie, passe son temps à introduire dans sa vie des péripéties imaginaires qu'elle suivait avec passion. Ainsi, dit Proust, ou le narrateur, elle se plaisait à supposer tout d'un coup que Françoise la volait, qu'elle recourait à la ruse pour s'en assurer, la prenait sur le fait. Habituée, quand elle faisait seule des parties de cartes, à jouer à la fois son jeu et le jeu de son adversaire, elle se prononçait à elle-même les excuses embarrassées de Françoise et y répondait avec tant de feu et d'indignation que l'un de nous, entrant à ces moments-là, la trouvait en nage, les yeux étincelants, ses faux cheveux déplacés, laissant voir son front chauve. Françoise entendit peut-être parfois dans la chambre voisine de mordants sarcasmes qui s'adressaient à elle et dont l'invention n'eût pas soulagé suffisamment ma tante s'ils étaient restés à l'état purement immatériel et si, en les murmurant à mi-voix, elle ne leur eût donné plus de réalité. Quelquefois, ce spectacle dans un lit, ne suffisait même pas à ma tante. Elle voulait faire jouer ses pièces. Alors, un dimanche, toute porte mystérieusement fermée, elle confiait à Eulalie ses doutes sur la probité de Françoise, son intention de se défaire d'elle, et une autre fois à Françoise, ses soupçons de l'infidélité de Lali, à qui la porte serait bientôt fermée. Quelques jours après, elle était dégoûtée de sa confidente de la veille et racoquinée avec le traître, lesquels d'ailleurs, pour la prochaine représentation, échangeraient leurs emplois. Mais les soupçons que pouvait parfois lui inspirer Eulalie n'étaient qu'un feu de paille et tombaient vite, faute d'aliments, Eulalie n'habitant pas la maison. Il n'en était pas de même de ceux qui concernaient Françoise, que ma tante sentait perpétuellement sous le même toit qu'elle, sans que, par crainte de prendre froid si elle sortait de son lit, elle osât descendre à la cuisine, se rendre compte s'ils étaient fondés. Peu à peu, son esprit n'eut plus d'autre occupation que de chercher à deviner ce qu'à chaque moment pouvait faire et chercher à lui cacher Françoise. Elle remarquait les plus furtifs mouvements de physionomie de celle-ci, une contradiction dans ses paroles, un désir qu'elle semblait dissimuler. Elle lui montrait qu'elle l'avait démasqué d'un seul mot qui faisait pâlir Françoise et que ma tante semblait trouver à enfoncer au cœur de la malheureuse un divertissement cruel. Et je continue parce que c'est très beau, si vous le permettez. Peu à peu, Françoise et ma tante, comme la bête et le chasseur, ne cessaient plus de tâcher de prévenir les ruses l'une de l'autre. Ma mère craignait qu'il ne se développât chez Françoise une véritable haine pour ma tante, qui l'offensait le plus durement qu'elle le pouvait. En tout cas, Françoise attachait de plus en plus aux moindres paroles, aux moindres gestes de ma tante, une attention extraordinaire. Quand elle avait quelque chose à lui demander, elle hésitait longtemps sur la manière dont elle devait s'y prendre. Et quand elle avait proféré sa requête, elle observait ma tante à la dérobée, tâchant de deviner dans l'aspect de sa figure ce que celle-ci avait pensé et décidé. Et ainsi, tandis que quelque artiste qui, lisant les mémoires du XVIIe siècle et désirant de se rapprocher du grand roi, croit marcher dans cette voie en se fabriquant une généalogie qui le fait descendre d'une famille historique ou en entretenant une correspondance avec un des souverains actuels de l'Europe, tourne précisément le dos à ce qu'il a le tort de chercher sous des formes identiques et par conséquent mortes, une vieille dame de province qui ne faisait qu'obéir sincèrement à d'irrésistibles manies et à une méchanceté née de l'oisiveté, voyait, sans avoir jamais pensé à Louis XIV, les occupations les plus insignifiantes de sa journée concernant son lever, son déjeuner, son repos, prendre par leur singularité despotique un peu de l'intérêt de ce que Saint-Simon appelait la mécanique de la vie à Versailles, et pouvait croire ainsi que ses silences, une nuance de bonne humeur ou de hauteur dans sa physionomie, étaient de la part de Françoise l'objet d'un commentaire aussi passionné, aussi craintif que l'était le silence, la bonne humeur, la hauteur du roi quand un courtisan, ou même les plus grands seigneurs, lui avait remis une supplique au détour d'une allée de Versailles. J'ai cité ces deux textes. La première raison, c'est que je les trouve beaux. La deuxième, c'est qu'effectivement, ils font apparaître conjointement une même structure, la structure du couplage ou de cet affolement à deux. Vous remarquerez en effet que dans l'un et l'autre cas, il y a une oisiveté statutaire, en quelque sorte, de l'un des partenaires. La tante Léonie est dans une inaction totale, absence d'événements, claustration, et Euloge, lui, on nous l'a bien dit, a vendu ses biens, il les a distribués, mais il a gardé un petit revenu, car il n'aime pas travailler, ne veut pas travailler. Alors, il a vendu ses biens, mais il a gardé une petite rente, n'est-ce pas, pour n'avoir rien à faire. Deuxième caractère commun, c'est le caractère inquiet, difficile et fantasque de l'un des deux partenaires aussi. Léonie, la tante Léonie, a ce caractère capricieux et difficile. Quant à Euloge, on nous le dit, n'est-ce pas, c'est une remarque très fine du début du texte que je vous ai lu, Euloge n'est bien nulle part. Il n'est bien ni tout seul, ni en groupe. Et l'estropié, lui non plus, il n'est jamais content. Tantôt il veut de la viande, quand il l'a, il veut revoir la foule, etc. Donc, cette folie à deux se développe chez des sujets dont nous dirions que ce sont des enfants difficiles et gâtés. Et il y avait dans, tout au moins dans le patois que j'entendais dans mon enfance, dans le sud-ouest, qui était donc un patois gascon, il y avait un mot, je ne sais pas très bien s'il est vrai ou si peut-être je l'ai inventé, un mot pour désigner les enfants difficiles, qui chipotaient leur nourriture, qui n'étaient jamais contents. On disait que c'était des enfants chaouchoun. Eh bien, Euloge et la tante Léonie sont des sujets chaouchoun. Le troisième trait, c'est qu'il y a évidemment dans les deux cas une inertie physique des partenaires. N'est-ce pas ? Léonie est au lit, elle ne peut même pas aller à la cuisine, et l'estropié, bien sûr, il est sans main ni sans jambes. C'est une espèce de chose transportée comme un paquet sur un âne et puis dans une petite barque. Quatrième trait commun, il y a un rapport infirmier, un rapport de soins, un rapport d'infirmier, comme on dit dans le vocabulaire psychanalytique, un rapport anaclitique entre les deux partenaires du couple. L'un est à la discrétion de l'autre, Léonie, c'est pas l'estropié, sont à la discrétion de Loge et de Françoise, le corps livré, et entre les deux personnages, il y a un rapport quotidien au niveau du corps élémentaire. Corps élémentaire, c'est-à-dire le corps qu'il faut soigner, laver, à qui il faut donner à manger. Cinquième trait, ce n'est pas le dernier, il y a beaucoup de traits communs entre ces deux couples. Dans les deux cas, il y a un rapport intense de langage. L'estropié a une langue bien pendue, et Léonie, elle, vit dans une sorte de jet continu de langage intérieur, parfois avec une pression si forte, n'est-ce pas, qu'elle parle à haute voix. Sixièmement, il y a un contrat très fort de cohabitation. Françoise est domestique à vie, elle est liée à sa maîtresse par une sorte de dévotion féodale, et Euloge, n'est-ce pas, on a beaucoup insisté là-dessus, Euloge a fait un contrat solennel avec Dieu pour soigner l'estropié. Et c'est même là son problème. Il ne peut pas défaire le contrat. Septième trait, si vous voulez, c'est l'existence d'explosions agressives, de scènes ou de leurs fantasmes, de colère, de passion. Recherche de l'argument le plus blessant dans les deux cas. Françoise dit Léonie est une voleuse. Et Euloge, dit l'estropié, veut sauver son âme sur son dos. Enfin, huitième et dernier trait, le seul dénouement, dans les deux cas, de cette espèce d'enfer à deux, c'est la mort. Léonie meurt, et Euloge et l'estropié, comme vous l'avez vu, meurent aussi. Alors voilà donc poser cette case de la folie à deux, je dirais, dans combien de ménages, dans combien de familles, dans combien de couples n'y a-t-il pas de ces couplages qui ne recouvrent pas forcément le couple matrimonial? Ces couplages qui sont définis par un mélange inextricable de haine et d'amour. Proust nous rappelle qu'à la mort de Léonie, Françoise a éprouvé une douleur sauvage. Et ce couplage très fort est très compliqué, puisqu'il est absolument ambivalent et donné comme tel, vise évidemment une relation, disons, archétypale, qui est celle de la bête et du chasseur, ou de la victime et du bourreau, les rôles pouvant s'alterner. Et c'est donc là une situation, le couplage relèverait d'un type de description qu'on trouverait donc surtout dans Sade ou dans Dostoïevski. Voilà pour le couplage. J'en viens maintenant à une autre figure qui porte le titre Distance au singulier. Le vivre ensemble, surtout idiorhythmique pour nous, emporte une éthique ou une physique, si vous voulez, de la distance entre les sujets qui cohabitent. C'est là, je crois, un redoutable problème, le problème de la distance. C'est le problème fondamental du vivre ensemble, et je dirais que c'est donc le problème fondamental de ce cours ici. Mais ce problème, nous ne le saisissons que par éclat, par thème partiel et indirect. Alors je voudrais ici, brièvement, poser une forme de ce problème, mais nullement sa solution, qui est le point suivant, la distance des corps, la distance entre les corps dans le vivre ensemble. Ce problème de distance des corps peut s'énoncer sous la forme de ce qu'en logique on appelle une aporie, c'est-à-dire une suite logique fermée, à impasse. Et cette aporie est une chaîne. Je la formulerai ainsi en quatre points. Premièrement, le corps des autres ou le corps de l'autre me trouble, je désire, j'éprouve l'énergie et le manque du désir. J'entre dans la tactique épuisante du désir du corps de l'autre. Deuxièmement, de ce trouble, j'induis, je fantasme un état qui le fasse disparaître, qui fasse disparaître le trouble. Cet état a un nom dans le vocabulaire patristique, c'est l'esukhya, esukhya, H-E-S-Y-C-H-I-A, c'est-à-dire la paix du désir, la vacance non douloureuse, l'équanimité. Troisième point de la chaîne, j'édicte alors des règles pour arriver à l'esukhya. Et ces règles sont en général des règles de distance à l'égard des autres corps, les autres corps qui sont déclencheurs de désir. Quatrièmement, mais en tuant le désir de l'autre, le désir des autres, il se peut que je tue tout simplement le désir de vivre. Si le corps de l'autre ne me trouble pas, ou, disons, si je ne peux jamais toucher le corps de l'autre, à quoi bon vivre? Pose la question, bien sûr. Tout. Et à ce moment-là, évidemment, l'aporie est fermée. Il est évident que dans le système monastique chrétien, le sujet, le moine, n'est-ce pas, s'arrête au numéro 3, c'est-à-dire aux règles de distance. Il casse la chaîne au bon moment par un télos, par un objectif proprement religieux, qui est le désir de perfection. C'est-à-dire qu'il change de désir, il embraye sur un autre désir. Et si jamais il ne parvient pas à dévier son désir de l'autre vers un autre désir, qui est vers le désir de la perfection, s'il n'y parvient pas, alors il tombe dans cette chose horrible qui a formé la première figure de ce cours et qu'on appelle l'acédie. C'est-à-dire que l'acédie, c'est exactement de tomber entre deux désirs. D'où la rigueur minutieuse des règles monastiques qui concernent la distance des corps. Et c'est cela dont je veux vous dire un mot. Car les règles monastiques ont régler très minutieusement, vous allez le voir, la distance des corps, au sens le plus matériel du mot, qui habitent ensemble. Mais avant de vous donner ces règles, je voudrais dire que je crois qu'il y a intérêt à distinguer plus subtilement qu'on ne le fait d'habitude entre, d'une part, l'idéologie dépréciatrice du corps, qui est propre effectivement au christianisme, toute cette idéologie chrétienne ou patristique, enfin des pères de l'Église, disons, qui vise à tuer le corps, à le dématérialiser, à le mépriser, à le châtier. Alors, distinguer d'une part cette idéologie-là et d'autre part, ce qui n'est pas la même chose, les règles de distance. Les règles de distance sont des règles propédeutiques, je dirais, bien sûr, j'interprète un peu, mais je dirais que ces règles de distance sont des règles propédeutiques pour conduire le désir, non pas le brutaliser, mais le suspendre. par une sorte de ce qu'on appelle en grec une époké, c'est-à-dire une suspension du jugement, et qu'on peut dire aussi une suspension provisoire du désir, car suspendre n'est pas abolir. Et voici maintenant ces règles de distance, si minutieuses qu'elles sont strictement des règles, vous allez le voir, spatiales, et je dirais métriques. Par exemple, il s'agit, n'est-ce pas, des moines qui vivent en communauté. Par exemple, pour le sommeil des moines, il y a eu des prescriptions extrêmement détaillées. Pacôme, donc, Saint Pacôme, qui a fondé le premier monastère en Égypte, interdit aux moines de dormir à deux dans une même cellule. Et Saint Benoît renchérit, chacun dans un lit à part. Et même des précisions, les plus jeunes frères, je cite, n'auront point leur lit les uns près des autres, mais répartis entre ceux des anciens. C'est évidemment une prescription qui est absolument à l'opposé de la disposition qui est décrite dans le banquet de Platon, où il s'agit de lits pour manger, pas de lits pour dormir, mais où au contraire, la place des lits, la place des partenaires les uns à côté des autres au banquet, véhicule, n'est-ce pas, une charge très affichée, très ouverte d'érotisme. Ensuite, autre prescription, le corps doit être complètement isolé, minutieusement enveloppé, je dirais, dans sa distance. Le corps monastique, le corps du moine, est enveloppé de distance. Et voici les règles de Pacôme, je l'ai dit en latin et puis je l'ai traduit. Je prononce le latin comme on le faisait quand je faisais des études de l'autre côté de la rue, et donc je le prononce à la française, et plus comme maintenant, enfin, mais je ne veux pas me forcer. Totum corpus nemo unguet nisi causa infirmitatis. Personne, que personne, unguet, noigne, ne parfume le corps, tout le corps, si ce n'est pour cause de maladie. Donc, pas de pommade, sauf pour cause de maladie. Nec lavabitur aqua nudo corpore. Et que personne ne se lave à l'eau, tout le corps étant nu. Nullus lavare alterum poterit, haut unguere, nemo alteri loquatur in tenebris. Personne ne pourra laver l'autre ou le loindre, ungere. Personne ne parle à l'autre dans l'obscurité. Manum alterius ne teneat, sed sive steterit, sive ambulaverit, uno cubito distet ab altero. Que personne ne tienne la main de l'autre, mais que, soit qu'il reste immobile, soit qu'il se promène, il se tienne toujours à une distance d'une coudée, loin de l'autre. Alors, j'aime prescrire, parce que je n'en aime pas tellement le contenu, mais, disons, je les trouve remarquables parce que je dirais qu'elles développent, elles montrent, elles manifestent un sens subtil et aigu des voies du désir. Car tout dans ces prescriptions, tout du désir est dit, est minutieusement dit. L'auto-érotisme, enfin je traduis en langage moderne bien sûr, l'auto-érotisme, se laver tout nu, rester des heures sous la douche, les caresses sous alibi fonctionnel, laver l'autre, c'est pas une sorte d'articulation entre l'anarchisme et le plaisir érotique, qui rappelle bien sûr la source même de ce phénomène, à savoir les soins de la mère au nourrisson, qui sont à la fois des soins anaclitiques, qui aident le nourrisson à vivre, mais aussi des soins érotiques. et la parole sans se voir, n'est-ce pas, qui vise quelque chose de elle, qui est l'érotisme intense du langage et l'érotisme intense de la nuit. Et puis le jeu des distances, se tenir toujours à une coudée de l'autre, et qui met en scène toute la des contacts furtifs. Il y a dans la vie et dans les romans qui prennent en charge la vie toute une présence des plaisirs de contact qui sont visés par ces règles. Car je crois que le sens du frôlage, qui est dit en latin, nemo unguet, nullus lavare alterum poterit, etc. Le plaisir, le sens du frôlage, ça n'est pas la recherche d'une satisfaction, mais, et c'est en cela que c'est une perversion, le frôlage, c'est la recherche, je dirais, de la levée d'une frustration. Le corps dans le frôlage, ou dans la tentative de frôlage, puisque le frôle sont catalogués comme des pervers par la société, n'est-ce pas ? Il y a des frôleurs de métro, le frôlage fonctionne comme la levée d'une frustration. Dans le frôlage, le corps de l'autre ne m'est pas interdit, et je me donne la preuve que ce corps ne m'est pas interdit en le touchant, même si c'est sous l'alibi d'une raison parfaitement innocente. En Proust, il y a une grande scène entre Charlus et le narrateur, et à un moment, Charlus ne peut pas se retenir de caresser le menton du narrateur, et Proust dit très bien, ses doigts remontèrent jusqu'à l'oreille comme les doigts d'un coiffeur. Et naturellement, tout ça se donne sous l'alibi, il lui dit, mais comment, vous ne vous êtes pas rasé, etc. Alors, cela dit, la meilleure des distances, car il y a investissement dans une activité. Il est dit que dans le dortoir des moines, Saint Benoît dit qu'il doit y avoir une lumière jusqu'au matin. C'est le thème de la veille, n'est-ce pas ? Et Pacôme demande même aux moines, enjoint même aux moines, de dormir assis, non pas dans des lits étendus tout leur long, mais assis sur des sièges bas. Et puis il y a aussi le symbolisme de la ceinture. Vous savez que la ceinture, c'est un symbole, enfin dans le champ religieux, la ceinture est un symbole de virilité, à la fois de virilité et de contrôle de cette virilité. Saint Basile dit que les moines doivent avoir une seule tunique avec ceinture, car la ceinture, c'est là une symbolique religieuse, encore une fois, dit la volonté prête à agir. Tout cela vient d'un verset de Job 38:3, saint et rein comme un homme, saint et rein comme un homme. Et bon, ça serait facile de montrer combien encore aujourd'hui la ceinture est un symbole grossier mais extrêmement efficace de virilité. Les grosses ceintures de cuir, le style cow-boy, les tenues cuir, les SM, etc. Mais ce qui est encore plus probant, je trouve, pour ce symbolisme encore très vivant de la ceinture comme symbole de virilité, c'est le fait que l'élément vestimentaire opposé à la ceinture, lui, est complètement discrédité. Ce sont les bretelles. Les bretelles sont symboles de non-virilité, symboles d'avachissement et de perte de virilité. En somme, l'ensemble de ces règles montre, et c'est cela qui m'a intéressé, c'est pour ça que je vous les ai citées, elles montrent une très grande science du désir. Et aussi, on voit se profiler une opposition entre deux choses très différentes. D'une part, une thématique de la volupté, qui est au niveau surtout de la peau et du langage, qui est visée par ces règles, n'est-ce pas, et qui rappelle évidemment la perversion polymorphe de l'enfant, les caresses et le babil, toute l'activité érotique du nourrisson, n'est-ce pas, à savoir les caresses de la mère et le babil. Ça, c'est le thème de la volupté. Et puis, en face, il y a une thématique du muscle, du tendu, du rein, comme origine du mouvement génital. Et au fond, ce qui est demandé aux moines, c'est d'une part de contrôler la volupté, de garder sa virilité. Alors, pour finir, mais non pas pour conclure, je voudrais donner deux notes correctives sur ce thème de la distance des corps. La première est la suivante. Reich a pointé, ce n'était pas seulement chez les moines. Comment abandonner notre corps? Comment défaire la carapace de notre corps? Vous savez que c'est pour cela que les drogues existent. Je ne parle pas des drogues connues et pourchassées, mais il existe certaines drogues à effet sélectionné et dont l'effet est précisément de briser la carapace du corps. Ce ne sont pas à proprement parler des il ne s'agit pas d'intensifier l'excitation érotique, mais simplement de produire un état où le corps abandonne sa carapace. Ça existait aux États-Unis il y a quelques années, peut-être même quelques mois, mais il parle d'aphrodisiaque, mais de ce qu'on pourrait appeler des décarapassonnants, des drogues décarapassonnantes. Alors, deuxième remarque concernant le contrôle érotique du corps. Dans notre civilisation chrétienne, la solution pour contrôler érotiquement le corps est en général, je parle au niveau des mythes, de la littérature, des idées reçues, des thèmes, c'est une solution mutilante, castratrice, qui est articulée sur le fantasme de castration. Contrôler, c'est châtrer. Et là, je reviens encore à cette histoire losiaque, n'est-ce pas, qui est une mine d'exemples, où il nous est dit, où il nous a raconté l'histoire d'un anachorète qui s'appelait Élie, et dont on nous dit qu'il était fort porté sur les vierges, et qu'il s'était... Il avait tout de même reçu la mission d'instruire un monastère de 300 femmes dans la ville d'Atribée. Et ces femmes se disputaient, et donc, pour les empêcher de se disputer, il devait vivre avec elles. Et naturellement, l'histoire est logique, il était extrêmement tourmenté. Et il s'en est tiré, enfin, on l'en a tiré de cette façon. Un jour, il a fait un rêve, il a rêvé qu'on lui excisait les testicules. Et il s'est réveillé guéri de toute passion. C'est-à-dire que c'est la castration qui guérit du désir. Mais, en Orient toujours, vous savez que, pour autant qu'on le sache, le Tao, je ne dis pas institut parce que le Tao n'a rien institué jamais, mais le Tao laisse deviner, fait miroiter dans ses anecdotes et dans sa sagesse l'existence d'un contrôle érotique non mutilant, qui est évidemment fondé sur le coitus reservatus et qui par conséquent, cela supposant par conséquent, une toute autre philosophie de l'orgasme que celle du très occidental Reich. L'orgasme n'est pas forcément le souverain bien. Voilà ce que dit le Tao. C'est une pensée profonde de la sexualité, c'est évidemment une pensée perverse, et c'est une pensée, elle est profonde parce qu'elle approche de cette utopie qui est le non-refoulement, puisque la figure essentielle du non-refoulé dans notre civilisation, c'est l'enfant. L'enfant est la figure absolument utopique de l'humanité en proie au refoulement. C'est-à-dire que si on imagine une utopie du non-refoulement, nous, occidentaux, nous ne pouvons l'imaginer, cette utopie, qu'en passant par la figure de l'enfant, en tant, n'est-ce pas, qu'il est précisément, comme dit Freud, un pervers polymorphe. C'est-à-dire un pervers qui n'enferme pas l'éros dans la génitalité. Voilà pour les distances. Maintenant, tout autre sujet. Il s'agit des domestiques, au pluriel. l'homme, il y a des besoins et puis il y a des désirs. Or, le vivre ensemble, c'est le champ du désir. Et l'idiorythme, c'est la forme subtile, la forme non institutionnelle ou mal institutionnelle, non scientifique, de ce désir. Alors, à côté de ce désir, naturellement, il y a un problème de besoin. Comment satisfaire les besoins ou aux besoins de ceux qui vivent ensemble ? Qui, dans une communauté idiorythmique ou qui court idiorythmique, qui va prendre en charge l'ordre ménager des tâches ? C'est un problème très épineux de toutes les communautés modernes quand elles ont essayé de se constituer, n'est-ce pas, il y a une dizaine d'années, qui se résume dans cette phrase très simple. Les raisons communautés ne durent jamais très longtemps. Cette phrase est la suivante. Qui fait la vaisselle ? C'est le problème des domestiques. Alors, je voudrais noter que dans les civilisations à esclavage, la séparation des besoins et des désirs est évidemment automatique. Et, si vous voulez, il faut voir la description d'un vivre ensemble dans la société antique, côté oikia, la maison au sens très large, qui est décrite par Xénophon dans les Économiques. Dans le monde chrétien. Alors, maintenant, je vais m'occuper d'abord des solutions à ce problème qui implique qu'il y a confusion entre les communautés qui confondent dans le même sujet la satisfaction des besoins ménagers et l'accomplissement du désir. C'est évidemment le cas des communautés ou des groupes idiorythmiques où il n'y a aucune domesticité. C'est-à-dire que le sujet contemplatif vaque lui-même à la satisfaction de ses besoins et par là même il les réduit le plus possible. Il n'a pas de domestique. Alors je donne comme exemple, bien sûr, je rappelle, ou peut-être je l'ai déjà dit, je ne sais pas, tous ces moines dont j'ai beaucoup parlé jusqu'ici, tous ces anachorètes orientaux, étaient surtout sortis de la classe paysanne. Hein. Pas oublier ça, il faut faire un peu de sociologie. C'était des moines qui étaient sortis de la classe paysanne, ce n'étaient pas du tout des intellectuels ou des lettrés. Bien au contraire, non seulement ils n'avaient aucune culture, mais encore ils la refusaient. Saint Antoine, par exemple, a refusé. Donc, ça représentait donc une marginalité, disons, très anti-intellectualiste. Et chaque anachorète, bien sûr, à ce moment-là, assume seul la totalité de ses besoins. Parfois, simplement, il a un jeune disciple, qu'on appelle en latin un famulus, qui lui sert moins de domestique, d'ailleurs, que de coursier, qui fait ses courses pour lui, en lui évitant ainsi de sortir de sa réclusion. Mais il y a donc là, si vous voulez, une forme d'échange, c'est-à-dire que l'anachorète, le vieux, donne aux jeunes problème de domestique, parce que précisément, c'est un monde de l'esclavage. Avec vendredi, eh bien, c'est un vivre ensemble qui est uniquement un vivre avec un esclave et pas un vivre avec un domestique. Les signes sont très nombreux, par exemple, vendredi met lui-même le pied de Robinson sur sa tête, je dirais comme s'il était de l'essence même du noir d'être tout de suite un esclave. Deuxièmement, le premier mot que Robinson apprend à vendredi en anglais est le mot « maître ». Troisièmement, Robinson enseigne l'anglais à vendredi pour ses besoins, mais il ne demande nullement à vendredi de lui enseigner sa langue à lui. Et enfin, quatrièmement, on nous dit que vendredi est presque aussi bien vêtu que son maître. Pas tout à fait. Cependant, avant le naufrage, quand Robinson est lui-même esclave d'un corsaire de Salé au Maroc et qu'il s'enfuit sur une barque, il y a l'ébauche d'une relation avec un jeune garçon qui l'emmène sur sa barque pour fuir, qui s'appelle Xuri, X-U-R-Y. Donc à ce moment-là, on croit qu'on a affaire à un famulus, à une relation entre l'anachorète et le famulus, c'est-à-dire l'échange entre une expérience, qui est celle de Robinson, et des services que lui rend le jeune garçon. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça, parce qu'à la fin, Robinson vend le jeune garçon, et donc en fait, c'était un esclave. Sur le mont Athos, nous l'avons vu, il y a eu au fil des siècles deux sortes d'idiorythmie. Une idiorythmie ancienne, de modèle érémitique, c'est-à-dire de modèle pur et dur, et une idiorythmie plus récente qui intégrait la division sociale, c'est-à-dire que l'idiorythmie saisissait des moines aisés, des moines qui avaient un revenu, et qui, en tant que moines un peu riches, avaient, ou peut-être ont encore maintenant, je ne sais pas, des moines domestiques qui sont affectés aux tâches ménagères. Mais à l'origine du mont Athos, c'est-à-dire du phénomène du mont Athos, l'idiorythmie, je le répète, était sans domestique, et même avec interdiction absolument codée d'avoir des domestiques. Je dis cela parce que cette interdiction d'avoir des domestiques sur l'Athos doit être mise en rapport avec un trait typique du mont Athos qui est en général mal interprété. Il s'agit de l'interdiction d'accès du territoire de l'Athos aux animaux femelles. Cette interdiction a été amenée par saint Athanase et paraît-il, car l'hypothèse n'est pas de moi, je ne suis pas compétent, il s'agit, paraît-il, d'une interdiction qui n'est nullement d'origine sexuelle. Ça n'est pas par morale sexuelle que les animaux femelles ne peuvent pas pénétrer sur le territoire de l'Athos. Cette interdiction va précisément avec l'interdiction d'avoir des domestiques. Comment ? Eh bien, il s'agissait d'empêcher les monastères, d'empêcher pour le législateur, les monastères de vivre du revenu des troupeaux élevés par des employés gagés. Or, dès qu'il y a troupeau, il y a nécessité d'esclaves ou de domestiques. Donc, si on veut avoir domestique, ben, il ne faut pas avoir de troupeau. Et si on ne veut pas avoir de troupeau, il ne faut pas qu'il y ait des mâles et des femelles. Je vous donne le raisonnement. On peut les trouter. On la voit bien dans l'île mystérieuse. Pleptainton, qui est un grand cri, le ramène sur leur île. Et ils font de se réprouver, disons, un domestique. Et qu'est-ce qu'on donne à faire à ce domestique ? Et de soigner. Ça, donc, c'est le premier cas où il n'y a pas de distinction dans le sujet entre le besoin. Mais il y a d'autres cas d'organisation où les besoins et les désirs sont séparés. C'est-à-dire que la communauté, pour se vouer aux tâches spirituelles, aux désirs spirituels, délègue les tâches ménagères à un groupe fonctionnel de moines domestiques. Tout cela est connu, vous savez que dans les monastères cénobitiques, on appelle ces moines domestiques des frères convers. Ça vient du latin convertiti, c'est-à-dire les convertis. Je dirais que c'est le prix de la conversion. Le prix à payer pour être intégré, c'est de servir de domestique. C'est-à-dire d'entrer dans le jeu de la division sociale. Nous avons vu que chez les Chartreux, il y avait à la maison basse des frères et dans la maison haute, des pères. L'idiorythmie, à ce moment-là, c'est une sorte de luxe. Dans les monastères bouddhiques de Ceylan, vous savez qu'à Ceylan, il y a un bouddhisme qui est, disons, parmi tous les bouddhismes de cette région du monde, un bouddhisme plutôt doux. Un bouddhisme humanisé et doux. Eh bien, dans les monastères bouddhiques de Ceylan, les moines sont déchargés des tâches matérielles par l'institution d'une domesticité. Il y a une domesticité qui est composée, par exemple, soit par des vieillards sans profession et sans famille qui ont choisi de finir leurs jours en accomplissant les petites besognes domestiques, on les appelle des upasaka, U-P-A-S-A-K-A, soit par des adolescents qui payent ainsi leurs études, soit par des domestiques à gages qui sont payés par les laïcs. Alors, il est évident que, c'est là-dessus que je voudrais finir, ce problème communautaire de la domesticité suit les grands problèmes de structure des sociétés. Division du travail, échange, division des classes, reconstitution dans la marginalité d'un microcosme social avec délimitation d'un groupe oisif et privilégié. Mais ce qui m'intéresse davantage, je dirais, dans ce problème des domestiques, c'est la mise en structure interne des deux groupes, le groupe des maîtres et le groupe des domestiques. Et je dirais que c'est une structure, c'est ça qui m'intéresse à vrai dire, c'est que je devine que c'est là une structure de reproduction, d'imitation, de duplication, d'anamorphose. Disons que les maîtres reviennent dans les domestiques, mais à titre d'image lacunaire, d'image farce. Les familles, les frères convers, sont des répliques volontairement affadies des grands solitaires. Il y a des pères à part entière, si vous voulez, et des convers qui reproduisent la structure des pères, mais d'une façon, selon une imitation grossière. Les convertiti, les convers, ce sont des récemment convertis. C'est pas comme s'ils s'efforçaient, parce qu'ils sont tout récents, à mimer le statut qu'ils veulent rejoindre. Et des moines, je vais passer à un tout autre espace, qui est celui dont j'ai déjà parlé, celui du roman de Zola, Peau Bouille, car ce jeu de la duplication farce, de la copie parodique entre le monde des maîtres et le monde des domestiques, a été très bien traité par Zola dans ce roman à propos de cet espace communautaire qu'est l'immeuble de Peau Bouille. Dans l'immeuble bourgeois de Peau Bouille, il y a deux humanités. Il y a l'humanité des bourgeois, des maîtres, qui habitent des appartements nobles sur le grand escalier. Et puis, il y a l'humanité des domestiques qui vit ou bien dans des chambres de bonne, bien sûr, ou bien, disons, aux fenêtres des cuisines qui donnent sur une cour particulière. Et il faut, disons, aussi assimiler à cette humanité des domestiques l'humanité de l'adultère, les maîtresses entretenues. Et entre ces deux humanités, il y a, chez Zola, et c'est très bien fait, des représentations en réplique. C'est-à-dire que la domesticité reproduit d'une façon farce la parole des maîtres, et la petite cour où les domestiques dialoguent entre eux d'une fenêtre à l'autre reflète et explicite en langage bas le langage refoulé des maîtres. Et pour ce qui est des maîtresses, eh bien la maîtresse de l'un des bourgeois qui s'appelle Duverrier, cette maîtresse s'appelle Clarisse, et Zola nous dit minutieusement, n'est-ce pas, que son intérieur reproduisait point par point celui de la femme légitime, c'est-à-dire mimait en quelque sorte la respectabilité, et que même elle s'était arrangée pour avoir un piano, instrument qui exaspérait le mari et qui faisait qu'il retrouvait à la fois un piano chez sa femme quand il y revenait, un piano chez sa maîtresse quand il y allait. Bon, je termine là-dessus parce que c'est l'heure. Je dirais que ce n'est que une minute, je vous prie, ce n'est que l'ouverture d'un dossier énorme dont la question serait, c'est pour cela que j'ai donné une certaine importance à cette figure, tout clivage implique ou entraîne un miroir. C'est là, je crois, enfin je termine parce qu'il y a, si vous voulez, parce qu'il y a de plus intéressant et que je ne traiterai pas, tout clivage, toute séparation, toute division, et notamment toute division sociale, implique ou entraîne un miroir. D'où un énorme problème, je dirais un livre à faire, sur les effets de miroir de la division dans le champ social. Voilà, à mercredi prochain.